France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
Oui, c'est bon.
Les lasagnes, moi je trouve que c'est un plat dont on parle pas assez. Voilà, le principe est simple, on empile des couches de choses délicieuses et le résultat est encore plus délicieux. C'est magnifique, non?
Ce plat demande un petit temps de préparation, mais franchement, la tête de vos invités lors de leur première bouchée vaudra réellement le coup. On va s'attaquer à trois préparations: le ragoût, les pâtes et la béchamel.
C'est devenu vraiment un plat hyper connu dans le monde. Mais en fait, en Italie, on peut dire que chaque région avait sa façon de faire la lasagne. Pas forcément avec de la viande hachée, mais plutôt des polpettines. Ma grand-mère, par exemple, mettait des œufs durs, du jambon, du salame. En fait, il y a mille façons de faire. Mais elle a mis tout d'accord, c'est la lasagne bolognaise.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. C'est un plat populaire, bien ancré dans notre imaginaire familial. C'est l'un des symboles culinaires des Italiens expatriés. Et c'est même un plat de la malbouffe quand on pense aux lasagnes surgelées, à la viande de cheval. On en oublierait presque ses origines dans la botte. Comment sont nées les lasagnes? De quelle région viennent-elles? Au fait, le mot lasagne, ça veut dire quoi? Eh bien, on va percer tous les secrets des lasagnes. Et on va même les cuisiner de plusieurs façons avec nos deux invités, Alessandra Pierini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Vous êtes notre experte bien connue de la cucina italiana, la cuisine italienne, et vous nous avez d'ailleurs apporté une très belle lasagne de saison. On peut en savoir plus ou pas?
Oui, c'est vert.
Vous n'avez pas trop envie.
Disons c'est vert.
C'est vert, très bien. Lasagne de printemps, magnifique. Stéphane Solier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre gourmet lettré, expert du patrimoine culinaire italien. Vous avez d'ailleurs écrit tous les deux avec Alessandra une réédition de La science en cuisine et l'art de bien manger de Pellegrino Artusi aux éditions de l'Épure. C'est à l'origine un traité qui date de la fin du 19e siècle. Hein ?
Exactement, 1891-1911, sur 20 ans il a écrit.
Et alors, dans ce traité d'Artusi, qui fait référence en Italie sur la cuisine, il n'est pas du tout question de lasagne. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Avec nous également notre chef étoilé Manon Fleury et notre spécialiste du vin Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Manon.
Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble une lasagne qui ne va pas trop plaire à Jérôme, mais bon. sans gluten et béchamel.
Génial.
Et qui est aussi plutôt une lasagne printanière.
Absolument. La vision gastronomique de la lasagne par Manon Fleury, chef du restaurant parisien d'Attil.
Je suis impatient de découvrir ça.
Jérôme.
On va partir à la découverte d'un tout jeune domaine à cheval sur les deux rives de la Garonne.
Très bien. Pour réagir, intervenir, nous suggérer vos recettes de lasagne, envoyez-nous un email à On va déguster. @radiofrance.com. Abonnez-vous au podcast dont on va déguster sur l'appli de Radio France et retrouvez tous nos contenus, nos adresses, nos infos pratiques, les superbes recettes de lasagne signées Alessandra Pierini sur radiofrance.fr à la page On va déguster.
France Inter, François-Régis Gaudry, On va déguster.
Juste avant de s'attaquer à nos lasagnes, on commence avec ma petite surprise gourmande. Vous avez sous vos micros, chers amis, une petite poudre qui est tout sauf une poudre de perlimpinpin. Vous n'en connaissez rien, même pas la composition. Déjà, dites-moi en un mot si vous aimez et si vous êtes fort, si vous avez les palais en titane, eh bien vous avez 9 ingrédients à trouver. Comment vous pourriez déjà définir cette poudre, Manon Fleury?
Moi, c'est une poudre qui me fait penser un peu, vous savez, au mélange qui ressemble au gommasio, à ces petites poudres qu'on vient saupoudrer
vous
sur
avez
des
raison.
Mélanges condimentaires.
Mm-hmm. Très bien, donc une petite poudre légèrement épicée, peut-on dire?
Oui.
Alessandra?
Oui, des épices chaudes, surtout.
Mm-hmm.
Ça me rappelle un peu le mélange de cayoun avec du cumin qu'on sent tout de suite.
Oui.
Mais après, il y a séché soit de l'oignon, soit de l'ail, peut-être même les deux.
Alors, j'ai 9, il y a déjà 2 points. Il y a cumin, ça c'est 1 point pour Alessandra. Vous avez dit ail?
Oui, il y a de l'ail.
Ail.
Oui. Mmh. Ensuite, je vous écoute.
Il y a fenouil. Du citron.
Ah, alors,
agrume.
Citron, c'est très bien joué.
Oui.
Et une partie du citron.
La peau. Ouais, séché.
Le zeste.
L'écorce de citron séchée, absolument.
Et donc, les graines de fenouil.
Oui. Alors, Manon a dit fenouil, moi j'aurais dit anis.
Badiane.
Ouais. Badiane, anis étoilé.
Alors c'est étonnant parce qu'il n'y a pas d'anis ni de fenouil.
Non. Ah, oui.
En revanche, il y a
les graines de coriandre.
D'autres épices.
Les graines de coriandre, ça je l'avais aussi.
Nigel.
Bravo. Alors attention, il y avait graines de coriandre pour Manon Fleury, nigel pour Stéphane Solier. Là vous y êtes presque. Il y a cumin, coriandre, nigel, ail, écorce de citron. Vous sentez pas...
Il y a un truc un peu animal.
Alors qui avait dit sel?
Oui, c'est
sel.
Alessandra.
Sel.
Ouais, moi le sel.
Sel.
Et
qu'est-ce qu'il nous reste?
Une rondeur. Hein.
Une rondeur, massie.
Ah là, on y est.
Moi, j'ai pas là.
Il y avait en plus un tout petit peu de sucre de canne.
Ah oui, j'allais dire.
Ah, ah sucre.
Ouais. Voilà, ça paraissait bête comme ça. Ouais. Et un petit peu d'huile d'olive. Et également une petite touche de sumac.
Ah oui,
qui provoque, qui contribue comme ça, ce côté légèrement citronné, tout ça, on est dans le même univers. Et vous verriez ce condiment comme ça, à la Manon Fleury, on s'adresse à notre chef étoilé. Vous imagineriez ce mélange sur quel genre de préparation?
Sur du poisson, ce serait magnifique, ou même sur du riz.
Très bien.
Viande blanche.
Riz, viande blanche, absolument. C'est le condiment Citrus and Spice, pour saupoudrer. Eh bien, c'est ce que recommande notre ami Yota Motolenghi, effectivement. Du poisson, des légumes, du riz, voire un poulet rôti, des pommes de terre rôties aussi. Un produit, un condiment, parmi toute la ligne d'épiceries signée Yota Motolenghi. Vous connaissez forcément ce fameux cuisinier israélo-britannique, auteur de livres best-sellers. Et dans cette collection d'épiceries, on trouve notamment une harissa à la grenade, au citron confit et à la rose, un pesto au miso qui est absolument dingue. Pesto au miso, là, elle va s'évanouir.
Il faut garder la dignité du pesto, quand même. S'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on garde la dignité du pesto.
Une superbe sauce tomate à l'aubergine. Voilà. Ça, c'est Citrus and Spice. C'est vraiment très réussi,
ouais,
franchement. C'est vraiment trop bon, comme beaucoup de choses que fait quand même Yota Motolenghi, il faut bien le reconnaître. 6,90€ le pot de 50 grammes à retrouver à la Grande Épicerie de Paris. Et en vente en ligne, on vous a mis toutes les infos sur radiofrance.fr à la page. On va déguster. Alessandra, c'est grâce à vous que la dernière recette sur nos réseaux sociaux de France Inter explose. Les spaghettis à l'assassine.
Oui, vous l'avez bien réussi. Hein.
Oui, alors je me suis quand même fait engueuler. Hein. Vous avez vu sur les commentaires, sur la vidéo de la pasta à l'assassina, je me suis permis de remplacer la touche pimentée italienne par de la harissa. Il y a beaucoup d'Italiens qui n'ont pas aimé.
Bah oui, les Italiens, Rémi, bien sûr, mettent du piment. L'assassine, c'est là, les spaghettis qui tuent.
Les spaghettis qui tuent.
C'est une recette hyper saisissante. Et en fait, les spaghettis ne sont pas cuits à l'eau, comme on attendrait les pâtes, mais ils sont saisis dans la poêle bouillante avec de la sauce tomate cuisinée, avec de l'huile d'olive, de l'ail et bien sûr une bonne dose de piment. Donc les spaghettis qui sont à plat deviennent secs, croustillants, c'est une texture croustifondante.
Incroyable.
Et donc la sauce tomate rentre en fait dans la fibre des pâtes.
C'est un peu comme pour un risotto en fait.
Comme un risotto.
C'est-à-dire que ces spaghettis sont vraiment tomatés de l'intérieur.
Ben oui, ça prend même de la couleur.
Oui.
Les spaghettis sont en rouge un peu rosé et puis c'est ce goût. Ces saisies sont presque un petit peu croustillants sur les bords. C'est vraiment la recette qui tue.
Essayez cette recette d'Alessandra Pirini que j'ai interprétée pour les réseaux sociaux de France Inter, les spaghettis à l'assassina. C'est vraiment un pur régal. C'est Laurent Thomas qui mitonne cette émission avec derrière la console Gaspard Guy Bourget, Fabrice Rivaud pour la prépa et l'orga de l'émission. Alessandra Pirini, vous connaissez forcément Françoise Hardy.
Bien sûr.
Est-ce que vous saviez qu'elle elle a chanté en italien?
Absolument, et j'étais née à l'époque, hein, je vous le rappelle.
Vous connaissez le nom de la chanson qu'a choisi pour nous Giubacca?
Il pretesto.
Oui, il pretesto. Et dans un instant, les lasagnes, leur histoire, leur recette. Buon appetito sur France Inter. Io so bene
dei castelli di carta con un soffio van giù, non ne hai colpa tu. Non voglio un pretesto per pietà, sai che io detesto falsità. Dammi in faccia al letto quando vuoi finirla fra di noi. Finirla fra di noi.
Sur France Inter.
Le lac Majeur, c'est le plus beau des lacs italiens, ça ne fait aucun doute. De toute façon, c'est le mien, puisque j'ai la chance d'y avoir une maison qui a été construite par mon arrière-grand-père. Et j'ai un souvenir gastronomique très précis, celui de lasagne. Nous allions au bord du lac, à Intra, côté piémontais, tous les samedis, il y a un marché. D'ailleurs, ma mère allait marchander, elle me faisait honte. On avait toute la ribambelle de copains qui étaient avec nous. Et après, le moment délicieux de la journée, c'était le stop dans un tout petit restaurant sur la Piazza San Vittore, derrière l'église San Vittore. Un petit resto qu'il fallait vraiment connaître parce qu'il est complètement paumé. Tout petit, avec des grandes tables et des grands bancs. Et deux sœurs tenaient ce restaurant. Une qui faisait le service, très grande et très maigre, et assez sèche, et une autre, tout en rondeur, qui faisait la cuisine. Je ne sais même pas comment elle faisait pour se mouvoir dans la cuisine, tellement la cuisine était petite, et elle faisait des lasagnes. Mais vraiment, j'en ai encore les larmes aux yeux quand j'en parle. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de difficultés à manger des lasagnes, depuis tellement celle-là était bonne. La lasagne, ça ne souffre pas la médiocrité. Et il faut que ce soit moelleux, mais pas coulant. Et il faut qu'il y ait un équilibre parfait entre la pâte, la viande, la sauce tomate pas trop liquide, la béchamel pas trop liquide non plus, la pâte moelleuse. Enfin, tout ça, c'est une question vraiment d'alchimie. Et ce que j'ai gardé, ce sont deux grands plats que maman avait achetés, que nous prenions pour rapporter à la maison, pour en avoir encore deux jours plus tard. Et j'ai toujours ces deux grands plats que je n'utilise plus guère, mais que j'ai toujours dans ma cuisine italienne.
Vous avez reconnu cette voix ?
Oui.
Oui.
Patricia Martin. Et oui, l'amie et voisine de bureau, Patricia Martin, qui anime l'heure philo sur France Inter le vendredi à 20h et le dimanche à 14h. Elle est également dans la bande du Masque et la Plume. Ne le cherchez pas, hein, ce resto évoqué par Patricia Martin sur les rives du lac Majeur, il n'existe plus et ses lasagnes divines, j'aurais aimé les goûter quand même, ne sont plus qu'un heureux souvenir. Ça prouve une fois de plus, Alessandra Pierini, que dès qu'on évoque le mot lasagne, on a tout de suite un souvenir, une recette de famille qui surgit, et pas seulement quand on est italien d'ailleurs.
Tout à fait, on s'approprie en fait de la lasagne, on la fait sienne. Et c'est un petit peu le risque et la richesse des grandes recettes qui deviennent après un peu universelles, qui nous échappent un tout petit peu. Donc la lasagne parle aussi avec d'autres accents, mais on sait en fait que c'est une recette italienne et que c'est un plat fait en Italie. Ah oui, oui, non.
Mais c'est vrai qu'on a presque un peu oublié ses origines, parce que la lasagne est très présente aussi évidemment dans la cuisine américaine, par la diaspora italienne. Ouais. La lasagne est devenue un totem français. Elle fait partie de notre cuisine ménagère. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un côté un peu versatile, transformiste de cette recette. C'est le principe comme ça, des couches de pâte avec une garniture.
Ah oui, c'est assez facile de la reproduire à d'autres latitudes. Mais en fait, c'est ces plats de tradition qui deviennent un plat d'appropriation. Un peu comme la pizza.
C'est ça, Stéphane. Bah tiens, la pizza. On y est. Pizza, lasagne, on est quand même presque aujourd'hui dans une cuisine pop, dans une passion mondiale, une espèce de totem universel en fait.
Ah oui, complètement, si on cherche un tout petit peu. Je vais vous poser une question, cher François-Régis. Qui a dit « les lasagnes ne sont pas un plat, c'est un art de vivre, c'est un état intérieur, le suprême accomplissement de l'ouvrage de l'homme »
Alors ça, je ne sais pas.
Eh ben, C'est Garfield.
Non.
Vous savez, le gros chat orange
mais
créé par
sûr.
Jim Davis.
Ah, mais c'est vrai que c'était le plat préféré de Garfield.
Exactement. C'est le plat préféré de ce chat égoïste, paresseux et gourmand. Mm-hmm. Eh bien, si on regarde un peu dans la culture pop, hein, on retrouve les lasagnes. Elles font les délices de Monica dans Friends.
Ah oui, elles, carrément, oui.
Ah oui, mais elle se dépatouille avec les 14 plats de lasagnes que sa tante, dont sa tante voulait se débarrasser. On a aussi dans la série Soprano, hein, Carmela, la femme du boss. Mafieux Tony Soprano hein, qui les prépare volontiers pour sa nombreuse famille ou pour les acolytes.
Oui, donc preuve que vraiment les lasagnes c'est devenu une source d'inspiration très populaire et paradoxalement c'est un plat dont on connaît très très mal les origines, l'histoire, quand on s'interroge sur les origines des lasagnes, là c'est vrai que tout d'un coup c'est une espèce de trou noir, alors on va essayer d'y voir plus clair avec vous Alessandra et Stéphane. Commençons peut-être par l'étymologie du mot lasagne, c'est assez énigmatique, assez complexe, on essaye de démêler les choses avec vous.
Allez, on essaye, c'est une vraie lasagne. En italien, quand on dit una lasagne, c'est une espèce d'embrouillamini pas possible. En étymologie, ah oui. On est un peu embêté. Bon, je vous synthétise, il y a 4 hypothèses qui ont été menées. Donc ça viendrait du latin lasanum et du grec lausanum, qui serait un trépied de cuisine ou une marmite. Donc ça aurait été à l'origine une préparation dans une marmite, une pâte préparée dans une marmite. C'est pas très convaincant. On a une possible origine commune au mot losange, qui viendrait du gaulois laosa, qui a donné en français la
origine
lose.
Origine gauloise de la lasagne,
j'adore,
qui va
s'évanouir. Et c'est une pierre plate, hein, la lose, toits en lose.
Et oui.
Éventuellement, on a une origine qui pourrait venir de l'arabe et du persan, Lausig, dont la racine Laus veut dire amande, puisqu'il y avait un gâteau aux amandes qui était fait de strates comme ça, de pâte d'amande avec des feuilles de pâte qui pouvaient être carrées ou losanges. Donc allez, on croise la troisième et la deuxième hypothèse. Uh-huh. Et puis la quatrième hypothèse, sans doute
c'est votre préférée.
Ma préférée et la plus établie en quelque sorte, ça vient du latin laganum, du grec laganon, qui désigne une préparation céréalière un peu fourre-tout, mais qui va devenir une feuille de pâte un peu fine. Et d'ailleurs, ce mot laganum est resté en italien moderne. Hein. On a dans le sud de l'Italie un plat de pâte qui s'appelle les lagane et ceci, qui sont un plat de pâte très ancien,
ah oui,
avec des pois chiches et des formats de pâte un peu larges.
Mais est-ce que ces lasagnes dans l'Antiquité prenaient déjà la forme comme ça, cette forme moderne d'un plat stratifié avec différentes couches, des pâtes, une garniture ?
Pas tout de suite. En fait, le mot laganon désigne un pain plat mou. Mm-hmm. On a un poète du deuxième siècle grec qui nous désigne une recette où cette pâte-là était baignée dans un bain de frites, mm-hmm, de friture, pardon. On aurait ainsi l'image d'oreillettes du carnaval, grosso modo. Mais Apicius, le grand auteur latin, nous donne 2 recettes de lagana qui sont en fait des feuilles de pâte, des lagana farineo, montées, intercalées avec des farces de poisson ou de viande, mm-hmm, et qui sont cuites dans leur jus, imbibées comme ça, mais elles sont entourées d'abesses un peu plus épaisses qui font plutôt penser aux historiens à une chose qui ressemblerait plus à un pâté en croûte.
Ah oui, donc on n'est pas encore tout à fait dans les lasagnes modernes. Alors il y a visiblement une évolution technique majeure au Moyen-Âge qui va rapprocher les lasagnes de la version moderne qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, en fait, c'est simplement la cuisson par ébullition qui va permettre, dès le Moyen-Âge, d'avoir ce plat stratifié où les pâtes sont ébouillantées, mais assaisonnées uniquement avec du fromage et des épices.
D'accord.
Donc on n'a pas du tout de viande,
de protéines, de chair animale.
Voilà.
D'accord.
Exactement. C'est un plat plutôt aristocratique, hein, avec l'usage des épices, et qui se complexifie au fur et à mesure de l'histoire.
Donc on voit que c'est quand même une longue évolution technique, culinaire, et à partir de quand, Alessandra, on peut vraiment trouver des lasagnes dans leur version plus moderne.
En fait, il faut arriver au XVIe siècle, mm-hmm, avec le célèbre cuisinier Bartolomeo Scappi, donc qui, à partir donc de cette époque, commence déjà à remplacer l'eau par des œufs dans la pâte.
D'accord. Donc,
et en plus, ces pâtes viennent sont ébouillantées dans l'eau, ensuite superposées en strates avec du sucre, de la cannelle, des ingrédients sucrés salés, comme c'était un petit peu la mode à l'époque.
À la Renaissance, en fait.
À la Renaissance, tout à fait.
Ce goût un peu sucré-salé, ouais.
Et ensuite, elles étaient cuites au four.
D'accord.
Donc enfin, nous avons un petit peu la structure de la lasagne d'aujourd'hui. Mais il y avait une autre façon de manger ces lasagnes. On faisait aussi juste ébouillanter ces pâtes, on les assaisonnait et on accompagnait de la viande. Donc dans la même assiette, on avait les lasagnes assaisonnées, pas passées au four, et un plat de viande cuisinée. Donc c'est un peu cette façon qui est restée pendant longtemps à l'Italie, qu'aujourd'hui on ne veut plus en entendre parler, de la pâte comme un accompagnement de la viande.
Donc la lasagne comme un contorno.
Un contorno.
D'une viande comme un accompagnement, mais pas comme un plat en lui-même. Hein.
Et mais ça rappelle un usage encore actuel, hein, en Corse par exemple, où on a ce qu'on appelle les lasagnes à l'uso corso, qu'on oppose aux lasagnes à l'uso italiano, donc à l'usage italien. Et ces lasagnes, elles sont simplement, on alterne une strate de feuilles de lasagne fraîche à peine ébouillantée, une louche de sauce de ragoût de viande, généralement du tian ou donc du veau aux olives, et beaucoup de fromage, du gruyère pour l'aspect filant, mais de la tomme corse, sarde, du parmesan selon les goûts. Et on recommence et on monte ça dans un saladier et on la porte à table et on mange ces lasagnes sans viande, ou alors la viande est à côté, ou alors la viande est gardée pour un autre repas.
Et ça, c'est les lasagnes à la Corse, hein, à l'uso corso. Et ça, c'est effectivement un usage qui pourrait avoir été influencé par l'Italie de la Renaissance.
Exactement.
Soyons fous, c'est ça qui est passionnant avec la cuisine, c'est que ce sont des enquêtes et des énigmes historiques.
Les allers-retours aussi.
Est-ce qu'il y a... Bon, bah, j'ai un peu la réponse, enfin j'espère, à moins que je me trompe, mais est-ce qu'il y a une région d'Italie qui peut revendiquer quand même aujourd'hui la vraie lasagne?
Absolument, c'est Bologne. Bologne, c'est la capitale de l'Émilie-Romagne. Et donc c'est là, en fait, quand on parle en Italie, je vais faire une lasagne, on imagine que c'est la lasagne à la bolognaise.
Bologne, capitale.
Capitale,
de la lasagne,
et surtout, c'est, qui est aussi la capitale de la pâte fraîche, la capitale du ragoût à la bolognaise, qui est un des ingrédients principaux de cette fameuse lasagne.
Pellegrino Artusi.
Pellegrino Artusi, donc c'est une.
Il n'évoque même pas ses lasagnes bolognaises.
Non, absolument pas, parce qu'en fait, la lasagne bolognaise, on en parle surtout à partir des années 50-60. Ah. C'est assez récent quand même. Elle a été donc codifiée dernièrement. Du fait qu'Artusi n'en parlait pas à l'époque, donc on sait que la lasagne à l'époque n'était pas si connue comme aujourd'hui.
Et bien justement, on va essayer de comprendre un peu comment est faite cette lasagne. Je vous propose d'aller faire un tour à Paris, dans une adresse, Alessandra, que vous m'avez recommandée. C'est un pastificio, c'est-à-dire un atelier de pâtes. Il est dans le 5e arrondissement. Et là, il y a Angelo Pantasuglia et sa femme Serena Barbaro qui façonnent chaque semaine de vraies lasagnes d'inspiration bolognaise.
Bonjour, bienvenue dans l'atelier de pâtes fraîches Oronza. Moi je suis Angelo, je travaille avec ma femme. Là on produit des pâtes fraîches, mais on fait aussi des lasagnes, on est aussi un traiteur italien.
Mardi, c'est lasagne ici.
Voilà, bien dit. On commence, vous arrivez le moment de la préparation. Aujourd'hui c'était avec des asperges, là et des ours, et la nôtre lasagne bolognaise. À l'italienne, évidemment c'est fait avec de la viande de bœuf, et en petite partie de porc, ça peut être de la poitrine. Moi, je mets de l'échine hachée. La viande, d'abord, il faut la faire snacker. On déglace le vin rouge et on met le sofrito, céleri, caote, oignon. Et on cherche de récupérer tous les autres petits morceaux qui sont restés collés à la casserole. C'est très important parce que le goût, il est là. On verse la viande et on ajoute notre tomate. Ça mijote, 6 heures en moins. J'aime bien.
Génial, on va faire le montage. Alors là, vous avez un grand plat en inox.
Ouais. La lasagne bolognaise, il faut avoir 7 couches. Bon, nous, évidemment, on la fait un peu classique avec des pâtes à l'œuf normale. Et on fait 5 couches. Comme ça, on reste un petit peu raisonnable en question de poids. Je mets dans la plaque en louche de béchamel et en louche de bolognaise. Et j'étale. Et voilà. Et on commence avec notre première couche.
3 feuilles de pâtes qui font pile la taille du plat.
On va ajouter la bolognaise. Généreux, en fait, moi je mets à peu près une louche pour chaque feuille de pâte. J'ai commencé à étaler partout. Et c'est à ce moment-là que je mets un petit peu de béchamel.
Une béchamel qui est assez compacte, hein?
Oui, on n'oublie pas que c'est à la bolognaise. La bolognaise, c'est l'ouragou. C'est pas à la béchamel avec de la bolognaise.
Et après, une fois qu'on est allé, on va avec du parmesan. Pas mal, hein, parce que c'est bon, ça fait du bien. C'est un parmesan 24 mois. Ça va bien pour tout, ça prend pas le dessus sur les autres ingrédients.
Et là, vous allez reproduire l'opération. Exactement. Pour faire 5 couches.
Une fois qu'on monte la lasagne, il faut qu'elle soit gourmande, qu'elle soit cool, que quand on la mange, on sent la viande, on sent tout. C'est en fait un plat réconfortant. Et surtout en Italie, c'était le plat des dimanches. Et le dimanche, c'était repas en famille, se fait plaisir. C'est pas un plat de régime, même si on fait celle-là, la végétarienne.
Dernière couche de pâte, les foliers.
Alors, c'est à ce moment-là que j'exagère un petit peu avec la béchamel.
C'est très sensuel, votre affaire.
C'est à la limite de la food pornographie. Mais voilà. Et là, la béchamel.
Dans le reste de,
le reste de la sauce bolognaise. Là, on fait notre bien mélange. Mm-hmm. Et après...
Vous nappez voilà, la surface exactement. De la lasagne avec ce mélange béchamel et sauce.
Et là, parmesan. Ça permet de faire cette petite croûte un peu gratinée. On met de l'huile d'olive, ça permet de croquer pas mal. Et là, on passe au four.
Combien de temps?
Entre les 15 et les 20 minutes.
Perfetto.
Et voilà.
Al forno. Et bien, on va la laisser voilà. cuire gentiment. Et ce sont les clients de tout à l'heure qui vont être contents. Merci beaucoup.
À la prochaine.
Les lasagnes du pastificio Ronza. Alors, validé ou pas? Parce que Angelo nous a fait le bonheur de nous préparer cette lasagne que vous êtes en train de déguster sous vos micros. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah bah, très gourmande, appétissante.
Jérôme.
J'ai presque fini, c'est addictif, c'est très très bon.
C'est bon, hein, pas trop, très bon. De béchamel.
Non, justement, ça qui est bien. Pour le coup, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis pas un très grand fan de la béchamel. Et en plus, j'ai pas toujours bien perçu l'intérêt qu'elle avait dans une lasagne, en réalité.
Et là, il y en a peu, justement.
Très Manon. Ouais, et je trouve que la viande est aussi, elle a l'air plutôt assez maigre. Donc il y a quand même, il y a ce côté pâte assez moelleuse, mais en même temps, pas le côté peut-être un peu trop lourd qu'on peut se faire parfois des lasagnes.
Exactement.
Et en même temps, version assez classique. Donc.
Ouais. C'est une très bonne définition. Elles gardent quand même leur italianité. Les lasagnes d'Oronza, 2 rue des Fossés Saint-Marcel, Paris 5e. Et le jour de la lasagne, je tiens à le préciser, où Angelo les fait avec sa femme Serena, c'est le mardi. Est-ce qu'elles sont bolognaises jusqu'au bout des ongles, ces lasagnes que...
Disons que pour être parfaite, elles devraient comporter une pâte verte.
Oula.
C'est-à-dire une pâte préparée, pâte fraîche, préparée avec la farine, les œufs et en fait des épinards hachés et incorporés dans la pâte faire ces pâtes vertes. Oui, c'était les épinards que précédemment étaient intercalés dans les couches. Et là, dans la recette bolognaise, elles interviennent vraiment à l'intérieur de la pâte.
Donc les lasagnes d'Angelo sont bolognaise à 90%.
95%.
Vous lui pardonnez ou pas? Ça va? Elles sont bonnes.
Je pardonne, bien sûr, elles sont délicieuses. Très, très bonnes.
Un petit intermède littéraire, Stéphane, car il y a une mythologie qui est née sur les lasagnes bolognaises grâce à un écrivain en Italie.
Exactement, c'est le journaliste et écrivain Paolo Monelli qui a écrit dans son Ghiottone Errante, Les pérégrinations d'un glouton, en fait en 1935, un texte très très beau qui a permis aux lasagnes à la bolognaise d'entrer dans l'imaginaire collectif italien national, puisqu'elles ce sont des pâtes régionales et en fait, dans le courant du XXe siècle, on a nationalisé en fait ce plat. Il dit une chose très très belle, je vous lis le texte. J'ai lu des livres sacrés et des livres profanes. J'ai cherché dans 1000 volumes des certitudes et des consolations. Mais aucun n'égale ce volume de lasagne verte que les aubergistes malicieux de Bologne déposent devant nous. Entre chaque page, c'est un filant de fromage, un clin d'œil de truffe, un frémissement d'abats précieux. Feuilleter, dévorer ces pages, c'est un petit Décameron, un traité de philosophie historique. Une poésie au diapason qui nous réconcilie avec la vie. Une musique rossinienne est cachée au milieu de ces feuilles. Musique qu'un simple verre de vin parvient à dévoiler comme le font les révélateurs des encres sympathiques.
Ah oui, c'est un très joli texte. Mais alors là, on voit quand même l'intervention d'ingrédients, précieux, comme quoi la lasagne, elle a été codifiée récemment, mais enfin, on s'est un peu lâché sur la composition de la garniture.
Oui, bien sûr. Il faut dire quand même qu'il y a quelque temps, la truffe, comme on l'a trouvée dans la nature, on l'a incorporée beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui dans énormément de recettes, surtout à la fin du 19e.
Mais il était aussi question d'abats aussi. Visiblement, dans la lasagne bolognaise.
Bien sûr.
Codification récente de la lasagne di Bologna. Comment accompagner dans les verres nos lasagnes, et notamment cette lasagne carnivore? Réponse avec l'ami Jérôme Gagnès.
On va déguster sur France Inter.
pas mal. Ça fait partie des plops plutôt réussis.
Ça fait partie des trucs plutôt réussis, oui, pour une fois.
On va le mettre dans le top 10 de vos plops.
Je vous l'enlève de la bouche pour une fois. nous partons donc direction Bordeaux.
Oui.
Chez Fabien Deloube à Mélandie. Mélandie, c'est le nom de son domaine. C'est le nom de son arrière-grand-mère paternelle. D'une de ses arrière-grand-mères paternelles. Alors, on est, je vous disais, on est à cheval sur la Garonne. C'est-à-dire que Fabien, il a repris 1,5 hectare, un petit peu moins de 2 hectares, à Sauternes, qui étaient des vignes de famille, dont 1 hectare de vignes centenaires, en plein cœur des crus classés de Sauternes. Et puis, il a aussi acheté 1,5 hectare de vignes de l'autre côté de la Garonne, donc rive droite de la Garonne, donc dans l'entre-deux-mers, à 50 km au sud de Bordeaux, en face de Langon. S'appelle le Pian-sur-Garonne. J'ai découvert ce vin parce que c'est l'ami Lorenzo Paschini, le directeur du château d'Yquem.
On le salue.
Qu'on salue. Qui un jour me dit, viens déjeuner pendant les vendanges parce qu'il y a un vigneron qui s'est lancé. Il a été pendant 11 ans chez nous. Il est œnologue et il a lancé son domaine. Et je vais goûter ses vins. Je tombe sous le charme des vins et donc j'y suis retourné. Et eh bien, j'ai discuté avec Fabien, j'ai surtout goûté ses vins et j'ai beaucoup aimé ses vins. Il a une qualité rare, ce Fabien Deloube, c'est qu'il s'adapte vraiment à chaque millésime. Alors, vous allez me dire, il commence en 2023, on goûte un 2023 et un 2025.
Ah on goûte le premier millésime en rouge.
On goûte son premier millésime en rouge, on goûte le troisième millésime en blanc. Quand je goûte le 2023, je constate... Alors d'abord, il a évidemment beaucoup bourlingué, hein, Fabien. Il est allé aux quatre coins du monde pour faire du vin. Il a beaucoup appris. Il a passé 4 ans au château de Fiesole. Il a passé 11 ans à Yquem. Donc, il lance son domaine. Il a quand même déjà sacrément bourlingué.
Il a quelques heures de vol.
CV. Il a quelques heures de vol. Et il s'adapte. Et il est intelligent parce qu'il adapte à la fois sa vinification et son élevage. Le résultat, ce rouge, Cabernet Sauvignon, Merlot, assemblage classique dans le verre. J'aime beaucoup ce vin pour deux raisons. Il est éminemment bordelais. Dans son assemblage, dans son expression. Mais il a une très grande qualité que pas suffisamment de Bordeaux ont, à mon goût, aujourd'hui et encore aujourd'hui. C'est qu'il est digeste, il est dense, il y a une belle association de tanins, il y a une belle trame tannique, il y a de l'élégance, il y a un joli fruit qui perce, et c'est un vin dont on sent parfaitement qu'il a un gros potentiel de garde parce que, encore une fois, il y a de la structure et il est dense. Finesse et c'est puissance. Vrai. Voilà un très joli vin, 16 euros la bouteille, c'est une appellation Bordeaux, c'est quand même de l'artisanat pur. Voilà, pour moi, une très jolie bouteille.
Absolument.
Précipitez-vous chez Fabien, allez goûter, allez au domaine, appelez-le. C'est un c'est vraiment une très jolie découverte.
Vous aimez ou pas? Ce rouge, Alessandra?
Ça va très très bien avec la lasagne. Ouais. Il y a assez de corps, en fait, pour tenir donc, toute la structure de la lasagne, mais assez d'équilibre, un petit peu de fraîcheur et d'acidité pour faire digérer tout ça, en fait. Parfait.
Et on terminera avec le blanc. C'est un 2025. Alors, on va le goûter, on le goûte là. C'est un assemblage de Sauvignon.
Ah, on sent.
De Sauvignon et de Sémillon, exactement. Ça vient du terroir de Sauternes. Donc là, on est de l'autre côté de la Garonne, rive gauche, au nord de Langon. Et là, pour le coup, c'est la réinterprétation d'un terroir qui est voué au vin liquoreux à travers un vin sec. J'ai mis toutes les notes de dégustation des différents vins que j'ai goûtés au domaine. Il fait un magnifique Sauternes issu de vigne centenaire, qui est absolument superbe. Ce blanc, il a besoin, à mon sens, d'encore avoir 1 an de bouteille, parce qu'il y a un petit élevage qu'on perçoit en finale. Mais j'ai beaucoup aimé la texture de ce vin, la maturité du fruit, la précision des arômes, et encore une fois, la complexité qui est tout à fait intéressante. Et pour le coup, à Bordeaux, on a souvent des sauvignons qui sauvignonnent, et ici, on n'a pas un sauvignon qui sauvignonne, on a un sauvignon qui sauterne. Voilà un néologisme.
Manon, le blanc, vous l'avez goûté ou pas?
Oui, c'est très bon.
On n'en saura pas plus.
Mais non, mais
elle
trouve ça très bon. Rappelez-nous le nom de ce domaine, Jérôme.
Ça s'appelle Mélandie, c'est Fabien Deloube. Ah oui, il m'a dit juste de dire une chose très importante, c'est qu'il remercie encore une fois, 1000 fois, Lorenzo Paschini et les équipes d'Yquem qui l'ont vachement aidé à démarrer. Et ça, c'est vraiment sympa. Parce que pour le coup, voilà un beau lancement. Et ce vigneron, il faut le suivre parce qu'il a beaucoup de talent.
Eh bien, nous le suivrons, notamment par votre intermédiaire, cher Jérôme. Et vous vouliez également souhaiter un joyeux anniversaire.
Alors, très rapide, je souhaite un bon anniversaire. Ce sont les 1 an d'un média auquel je participe qui s'appelle aucomptoir.com.
Ah oui.
Ça a été créé par Leslie Brochaud.
Oui.
Et c'est un média qui parle de tout et de vin. c'est plutôt décalé. Il y a plein d'experts différents qui parlent de vin et de gastronomie sous des angles qui sont très souvent originaux, toujours intéressants. Allez voir au comptoir.com, vous avez les infos sur la page de l'émission et c'est un super média et je suis ravi d'en faire partie.
Absolument, et merci Jérôme Gagnès. Dans un instant, on va vous montrer que les lasagnes ont aussi plein de versions régionales en Italie et on va goûter. On attend avec impatience la version gastronomique des lasagnes par Manon Fleury. Song de Dove Ellis. On explore le monde des lasagnes avec Alessandra Pierini et Stéphane Solier.
On va déguster. François-Régis Gaudry sur France Inter.
Ce sont des lasagnes, mais pas les lasagnes comme on connaît ici en France, qui sont des plaques. C'était des pâtes assez larges, comme ça, et dentelées. De la sauce tomate, de la ricotta, et puis des petites boulettes de viande qui était faite moitié porc, moitié veau, avec du persil, des pignons, de pain et des raisins de Corinthe. C'était un plat très grand la plupart du temps, parce que ça demandait énormément de temps. Et ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que c'est le plat préféré d'une de mes filles. Donc si vous voulez, ça aussi, la chose continue, quoi. Ça se reproduit, ça perdure, la tradition perdure.
Quand la comédienne marseillaise Ariane Ascaride, que vous avez forcément reconnue, évoque au micro de France Culture en 2019 les lasagnes de sa grand-mère, d'origine... quelle origine à votre avis ?
Napolitaine.
Ah, comment vous l'avez reconnue ?
De l'Italie.
Alessandra ?
Bah, déjà parce qu'il y a les boulettes de viande.
C'est ça.
La lasagne napolitaine, on met très souvent dans la lasagne du carnaval ces petites boulettes délicieuses et très riches.
Absolument. Donc les lasagnes napolitaines d'Ariane Ascaride, ça c'est vraiment preuve supplémentaire qu'il y a un patrimoine qui se transmet en famille. On a des réactions justement de nos auditeurs et nos auditrices sur nos réseaux sociaux. Stéphane Solier, vous nous faites un petit medley ?
Oui, c'est des témoignages vraiment qui montrent bien que les lasagnes sont à la fois associées à des souvenirs familiaux et en même temps associées à des réappropriations, des recettes personnelles. On a Nathalie qui évoque la recette de son beau-père originaire de Malie dans les Pouilles. Alors là, c'est une sacrée recette, hein. Tranche d'aubergine panée, sauce tomate au basilic, mortadelle, petite polpette, œufs durs, mozzarella, pecorino.
Il y a des pâtes quand même.
Et il y a les lasagnes au milieu. Ah oui. Donc vous voyez un peu, c'est un prétexte, mais c'est génial. Cécile de Bordeaux qui évoque ses lasagnes aux légumes avec qu'elle prépare épinards, blettes, avec du greuil, du petit lait restant de la fabrication de fromage de brebis. On a Émilie qui évoque ses lasagnes au chou frisé. Voilà, donc on a vraiment des belles recettes très familiales et très personnelles en même temps.
Merci Stéphane Solier. Alessandra, vous signez un nouvel opus qui sort le 2 avril, ça s'appelle Cucina Kit. Je l'ai eu ce matin, vous me l'avez apporté. Merci beaucoup, c'est un véritable voyage dans la cuisine italienne des années 60 à 80, à travers notamment la cuisine de votre famille. C'est aux éditions de l'Épure, avec toutes sortes de... d'avatar, de choses tout à fait surprenantes avec effectivement, et le titre est bien justifié par les photos qu'il y a à l'intérieur, Cucina Kitsch. On a affaire à des recettes des années 70, des recettes italiennes sont tout à fait intéressantes, notamment sur le plan des recettes, des accords, des mariages, des dressages. Vous nous en parlerez dans une émission que nous avons prévue au Salon du Livre. Elle sera diffusée le dimanche 19 avril. On va l'enregistrer le 17 avril au Grand Palais. Si vous voulez venir, ce sera évidemment en public. Jérôme et Stéphane, vous en serez.
Tout à fait.
Et il y a dans ce livre une recette de famille de lasagne.
La lasagne al forno de ma grand-mère,
et
parce
oui.
que tout a commencé un petit peu par là, et c'était une recette, une version qui ressemble beaucoup à la bolognaise, mais ma grand-mère aussi, comme ma mère, ne mette pas les lasagnes vertes. Ma grand-mère disait que la lasagne verte, c'était une frivolité. Donc, comme c'était une cuisine plutôt rustique de campagne, donc elle était probablement plus sobre, et donc il y a de la viande de bœuf, de la béchamel, beaucoup, beaucoup de parmesan, parce que ma grand-mère et ma mère sont originaires de la région de Parme, qui n'est pas très loin de Bologne. Et donc, cette lasagne à la bolognaise, nous, on la mangeait très souvent quand on était petit, le dimanche. Et c'est la lasagne que ma maman fera la semaine prochaine, le jour de Pâques.
Et voilà, c'est vraiment un plat festif. Il y a aussi de la pancetta, vous ne l'avez pas dit.
Il y a aussi la pancetta, bien sûr, il y a toujours un petit peu de cochon. Et d'ailleurs, la pancetta, c'est dans la recette traditionnelle. On fait ensuite la béchamel et on l'enrichit avec vraiment beaucoup de parmesan. Et la béchamel, il faut qu'elle soit vraiment très, très légère et très discrète dans la recette.
Lasagne al forno d'Alessandra Pierini. La recette, d'ailleurs, vous nous la proposez sur franceinter.fr.
Oui, sur le site.
À la page, on va déguster. Lasagne, lasagna. Masculin, féminin, en français, c'est
les lasagnes. C'est
non, pas masculin, féminin, je veux dire singulier, pluriel.
Oui.
C'est pluriel en français.
Plutôt pluriel, les lasagnes. Si on dit la lasagne, c'est vraiment qui a une influence de l'italien. En fait, en italien, il y a une petite hésitation. Normalement, la lasagne, c'est la feuille de pâte. Les lasagnes, c'est plutôt le plat finalisé. Sauf que, en fait, les Italiens ne suivent pas forcément cette règle et on peut trouver les lasagnes, la lasagna. Très souvent, quand on utilise le singulier, il y a une petite connotation affective, affectueuse. On se dit, mi mangio una bella lasagna, comme on dirait, mi faccio un bello spaghetto, je me fais un plat de spaghetti. Mais on le met au singulier, genre, dans le but de créer quelque chose un peu affectueux.
D'accord, donc le pluriel et le singulier sont autorisés. Lasagne, primavera. Alors là, on parle vraiment du printemps, une célébration de cette saison grâce à vos lasagnes, Alessandra Pierini. Oui. Elles sont à nos côtés. Mmh. Qui l'a goûté déjà ?
Moi.
Moi.
Bah, c'est très bon.
C'est hyper généreux.
Les deux, ouais, c'est très généreux. Mais les deux, là, c'est très généreux.
Très
J'aime
gentil.
Beaucoup les légumes, ça fonctionne très très bien.
Oh là là.
C'est fin. C'est pas, il y a pas de lourdeur, c'est fin.
On peut dire qu'elles sont vertes.
Ouais.
Elles sont
Alors,
vertes.
Les pâtes ne sont pas vertes, mais
les
c'est la garniture.
Ne sont pas vertes. La garniture, là, il y a des artichauts, les premières asperges, des épinards, et j'ai fait de la ricotta. Et dans la ricotta, j'ai mis aussi des épinards et des artichauts hachés, un peu de parmesan. De la ricotta pour donner du moelleux, comme ça, j'ai mis vraiment juste un soupçon de béchamel. Et il faut remarquer qu'il y a 7 couches de pâte à lasagne. Parce qu'il faut au moins déjà mettre des couches impaires dans les lasagnes et au moins 5. Et nous, en famille, on aime beaucoup en mettre 7 avec une pâte fraîche très fine.
Elle est très très fine à la lasagne, en fait.
Ouais, oui, mais alors c'est délicieux parce qu'il y a du coup une texture particulièrement fondante. Vous aimez ou pas, Manon ?
Oui, j'adore. C'est trop bon. Et
ça
j'adore le côté, le fait qu'il y ait ces morceaux d'artichaut.
Et ouais, un peu croquant pour le coup, un peu al dente.
Voilà. faut faire attention.
Ce qui est joli, c'est qu'il y a l'amertume qui vient contrecarrer un peu le côté peut-être un peu plus gras de la ricotte, de la légère béchamel. Et c'est ça qui va très bien dans ce plat.
Ça va très très bien avec le Mélandi blanc.
Avec
le blanc de Mélandi, c'est admirable. L'accord est admirable.
C'est parfait.
Vous voulez dire que vous avez bien choisi vos vins en fonction de l'émission, Jérôme Guénèze?
Je n'oserais pas le dire moi-même, je vous remercie de le faire remarquer, cher François, ça me fait très plaisir.
Même avec l'amertume de l'artichaut, ça va?
Oui, ça fonctionne très bien, oui.
Vous nous redites les légumes, ce sont que des légumes verts?
Là, que artichaut, asperges et épinards, mais selon la saison, on peut mettre aussi des petits pois, toutes les herbes,
piselli,
donc les haricots verts, toutes sortes de blettes, d'herbes fraîches aussi, de la marjolaine, de la menthe, du basilic, il ne faut pas hésiter, selon la saison, on s'amuse comme on veut. C'est une pâte fraîche avec donc la garniture et ensuite passée au four avec une matière grasse qui est toujours fromagère.
Quand Fabrice Rivaud, qui prépare l'émission avec nous, a proposé à Manon Fleury le sujet lasagne, chaque semaine, Fabrice contacte notre grande bande de chroniqueurs et chroniqueuses. Dis donc Manon, ça te dirait une émission sur les lasagnes? On peut dire que Manon était en joie.
On va déguster sur France Inter.
Elle aime bien les lasagnes, Manon. Allez-y, je vous en prie.
J'adore les couches. Les lasagnes, c'est ce plat évident, hyper réconfortant. Elles sont pratiques, délicieuses, conviviales. C'est le plat que l'on fait quand on veut cuisiner pour plusieurs sans stress. Il met tout le monde d'accord. Au restaurant, c'est d'ailleurs un plat qu'on prépare souvent pour le repas du personnel, où tout le monde mange ensemble avant le service. Et les jours où l'on mange des lasagnes, personne ne s'en plaint.
C'est vrai.
Les lasagnes, pour moi, c'est surtout la satisfaction de sentir les couches céder une à une sous la pression de la fourchette. Et pendant la cuisson, la pâte absorbe la sauce mijotée et se ramollit. En bouche, cela donne une pâte légèrement gluante, mais dans le bon sens du terme. C'est ça qui lui permet de s'accrocher au palais pendant une fraction de seconde et qui fait que le goût s'attarde. Ça contraste avec le dessus. Le fromage lui a formé une coque gratinée qui résiste et qui craque sous la fourchette. Le plat concentre plusieurs textures en même temps et c'est ça qui fait que je l'aime tout particulièrement. On trouve plein de versions de lasagne, avec des ingrédients et des manières de faire différentes. Ce qui reste constant, en revanche, c'est la technique. Superposée, couche par couche, pâte et garniture. Et c'est ce geste-là qui m'a guidée. Pas question de chercher la meilleure version d'un plat déjà aimé de tous, mais d'en proposer une lecture de printemps, entièrement végétale. Pour ça, on oublie les pâtes. Ce sont le chou rave et le céleri rave qui la remplacent. Bon, François-Régis, je sais que cela s'éloigne de votre super recette de lasagne dont on va déguster l'Italie, mais pas de panique. Je promets qu'il ne s'agit pas d'un affront à la cuisine italienne.
Et d'ailleurs, la recette dont va déguster l'Italie, le livre que nous avons écrit ensemble, c'est vous, c'est votre recette, Alessandra, respectant vraiment la tradition bolognaise. Et j'avoue que c'est une recette, mais qui...
Ah oui.
Enfin, qui cartonne et qui surtout est parfaite en termes de...
Elle est parfaite, on l'a réussi sans aucun problème.
Et Fabrice Rivaud l'a mise en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Pour la recette, donc une chose à prévoir la veille, mettre des lentilles à tremper dans l'eau froide à température ambiante toute la nuit, ça change tout à leur texture. Le jour J, on commence par préparer les fameuses feuilles. Le chou rave et le céleri rave sont découpés en tranches fines à la mandoline, puis assaisonnés avec du zeste de citron, un filet d'huile d'olive et de la fleur de sel. Tranchés de cette manière, ils sont une base légère et sans gluten, ce qui permet d'avoir l'effet de couche et de gourmandise des lasagnes sans la lourdeur des pâtes. On s'occupe ensuite des blettes qui vont venir s'intercaler entre les couches. On sépare les feuilles des côtes que l'on garde pour préparer la farce. Les feuilles sont plongées quelques secondes dans l'eau bouillante salée, puis immédiatement dans un bain d'eau glacée pour fixer leur jolie couleur verte. On les égoutte, on les sèche entre deux feuilles de papier absorbant et on met de côté. La farce, elle, garde une vraie profondeur, ce qui contrebalance avec la légèreté des feuilles. On commence par la sauce qui va tout lier et remplace la béchamel. On lave les feuilles d'épinards, puis on les blanchit comme pour les feuilles de blettes et on les mixe dans un blender en versant de l'eau bouillante petit à petit jusqu'à obtenir une sauce lisse et très verte. On cuit les lentilles à petit frémissement pendant 30 minutes, puis on les égoutte. Les champignons et les côtes de blettes sont taillés en petits dés et sautés dans une poêle chaude avec un filet d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles soient légèrement colorées. Pour amener davantage de profondeur et de gourmandise, on torréfie les noix au four à 160 degrés pendant 15 minutes, puis on les hache grossièrement. On finit par réunir le tout, la sauce verte, les lentilles, les champignons, les côtes de blettes et les noix. On mélange, on goûte et on assaisonne. Il ne reste plus qu'à monter le plat. On alterne les couches, chou rave, céleri rave, feuilles de blettes, farce, parmesan râpé, et on recommence jusqu'en haut du plat. On finit sur une généreuse couche de parmesan et on enfourne 45 minutes jusqu'à ce que ce soit gratiné. et voilà. Mmh. On a toujours le geste des lasagnes, mais avec une lecture plus actuelle, où le légume est à la fois structure et garniture. C'est un peu la preuve qu'un plat emblématique n'a pas besoin de rester figé, et qu'il peut être modifié tout en restant bon. Il suffit d'en garder le geste et l'intention.
Bravo Manon, et quelle splendeur ! C'est nice. Lasagne légumière.
C'est ma deuxième lasagne préférée après celle de la maman.
Oh là là,
je le déclare.
Non mais avec une fraîcheur,
sublime,
avec un jeu de
sublime.
Consistance tout à fait étonnant. On est dans le al dente, le fondant, une diversité de goûts. Jérôme alors, elle était spécialement pour vous cette lasagne.
C'est extrêmement réussi, j'aime beaucoup. C'est très 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 réussi.
Ah non,
j'aime
bravo,
beaucoup
hein.
Tout le jeu de texture.
Ah oui.
C'est du très beau végétal, c'est fin, c'est admirable.
Ah ouais, coup de maître. Quel talent, oui. Notre Manon. Là, c'est
bravo Manon, c'est magnifique.
Manon, on pourrait. Pardon, hein, je veux pas dire qu'on va faire un pas de côté par rapport à notre thème, mais on pourrait presque parler en fait de millefeuille.
Tout à fait.
Comme lasagne, en fait.
Et j'adore cette structure-là pour composer des plats, parce qu'on peut y mettre ce qu'on veut, et on va superposer des saveurs qui vont s'équilibrer à la fin. Le tout, c'est de trouver l'équilibre entre l'acidité, le gras, le moelleux, le croquant. Et ça, c'est un jeu formidable pour un chef.
Extraordinaire.
Avec et là... toujours cette texture gourmande.
Mais
parce
oui.
que la lasagne, c'est ça. C'est, il faut de la gourmandise.
Du gras qui enrobe.
Qui enrobe bien, se fondant légumes. En même temps et 100% légumes.
Enfin, légumes frais et légumes secs, hein, légumineuses,
ah, oui,
puisqu'il y a aussi des lentilles.
Mais bah, oui, parce
très
que
présent
ça
dans la cuisine
végétale. Végétale.
Mmh. Oui, incroyable prouesse. Bah, Manon, vous revenez quand vous voulez. Hein, ça, c'est sûr. Elle a du talent, notre Manon. Non, franchement, incroyable. Et d'ailleurs, je me tourne vers vous. Stéphane Solier, car on se rend bien compte aussi que la lasagne, on le disait, vous commenciez cette émission en nous racontant que c'est un plat pop, mais c'est aussi une source d'inspiration pour la haute cuisine, et notamment en Italie.
Oui, c'est vrai que quand on... Là, Manon nous a proposé quelque chose de, voilà, d'inventif, de créatif. En fait, les lasagnes marquent souvent l'imaginaire des chefs, même des grands chefs étoilés. Et quand on a pensé à cette émission, moi j'ai tout de suite pensé à Massimo Bottura, vous
et
savez,
oui.
le grand chef étoilé de l'Osteria Francescana à Modène.
Bien sûr.
Et l'un de ses plats signature, c'est le fameux, je vous le dis en italien, la parte croccante della lasagna.
Ah, j'adore, la part croccante de la lasagne. Expliquez-nous, c'est génial.
En fait, ça vient d'un souvenir que tous les enfants italiens ont, c'est quand il y a le plat de lasagne. Alors, Alessandre a parlé du dimanche, le plat du dimanche. Quand on apporte le plat de lasagne, évidemment, les enfants se précipitent sur le coin le plus croquant, croustillant, brûlé un petit peu, qui a le meilleur goût, évidemment. Et en fait, Massimo Bottura est parti de cette idée pour proposer d'un souvenir personnel, quelque chose d'universel. Donc, le meilleur morceau des lasagnes. Et le résultat, c'est quoi? C'est une fine plaque ultra croustillante qui concentre le de la pâte, le ragoût, la béchamel, le parmesan gratiné, le tout est compressé, séché, puis croustillé au four pour obtenir une texture presque biscuitée, riche en saveur de lasagne. Et c'est une
la petite... part croustillante de la lasagne.
Un concentré, génial. L'essence, en fait, de ce qu'il y a de meilleur dans la lasagne.
Ça, c'est du Massimo Bottura. J'y suis allé deux fois, mais j'ai jamais goûté ce plat, pour le coup. Je sais pas de quand il date, d'ailleurs. La partie...
De 1995.
La partie croquante de la lasagne, ça, c'est brillant. Il y a des auditeurs et des auditrices qui vous connaissent bien, Alessandra, et qui nous demande si dans votre patrie, Gênes, votre ville natale, il y a aussi une tradition de lasagne.
Ah oui, surtout la lasagne, celle qu'on appelle di magro, pour manger dans les périodes de maigre,
oui.
C'est-à-dire, ça s'appelle la lasagne al pesto, avec
voilà.
du pesto,
pesto
et qu'on fait
genovese.
Avec des lasagnes tellement fines qu'on appelle ça mouchoir en soie, les mandili di sera. Et on le fait comme à la façon corse ou à la façon moyenâgeuse,
oui.
juste cuire à l'eau, on les pose dans l'assiette et on superpose des couches de pâte et de pesto sans passer après le plat au four.
Ah, ce ne sont pas des lasagnes al forno.
Absolument pas, juste des lasagnes vraiment al pesto, sans aucun autre ingrédient ajouté, ni justement le gratiné.
Et pourquoi vous ne les avez pas apportés?
Ben, ça sera pour la prochaine fois.
Sociologie des lasagnes, là on se rend compte, souvent on l'a entendu, c'est peut-être le mot de la fin, cher Stéphane Solier, la lasagne, c'est un plat du quotidien dans beaucoup de familles, mais c'est encore en Italie un plat considéré comme festif.
Oui, c'est la grande différence avec la France. On en parlait avec Alessandre. Quand on parle de lasagne en France, bah, on peut se faire un plat de lasagne, se décongeler un plat de lasagne, se préparer un plat de lasagne un peu à n'importe quelle occasion. En Italie, la lasagne Et ah bah, toujours,
c'est une dimension affective du singulier.
La lasagne est toujours préparée pour une occasion particulière. Donc le dimanche en famille, des anniversaires, quand quelqu'un demande qu'est-ce que je peux te préparer pour l'anniversaire, évidemment ça sera la lasagne. Et puis après il y a des fêtes plus propices à cela, le carnaval, Pâques, et surtout Noël. Les lasagnes sont associées aux fêtes de Noël.
Et ben voilà, un grand merci pour vos lumières, Alessandra Pierini et Stéphane Soli. Alessandra Pierini, je rappelle, un cucina kitsch, mais on aura l'occasion d'en reparler. Histoire intime de la cuisine italienne des années 60 à 80 aux éditions de L'Épure, disponible le 2 avril. On va encore une fois en reparler ensemble. La semaine prochaine, on vous raconte, oh là là, attention, le destin incroyable de André Imbert, une enfant abandonnée, formée à la cuisine dans la Drôme, et auprès des mères lyonnaises devenues dans les années 50 la cuisinière de la famille Kennedy. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.